Vous êtes avec SBS French.
Les grands titres de ce mardi 14 septembre, la Nouvelle-Galles du Sud enregistre 1127 nouveaux cas locaux de COVID-19 et de décès. Le confinement de l'ACT prolongé de 4 semaines supplémentaires. Les employés australiens pourront bientôt recevoir un vaccin COVID-19 sur leur lieu de travail. La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 1127 nouveaux cas locaux de COVID-19 et 2 décès. Les décès incluent une femme dans la soixantaine de l'ouest de Sydney et un homme dans la cinquantaine de l'ouest de Sydney. Les banlieues avec le plus grand nombre de cas sont Auburn, Greenacre, Bankstown, Liverpool, Marylands, Punchbowl, Riverwood, Yaguna, Candle Park et St. Clair. Le docteur Jeremy McNulty de New South Wales Health a déclaré que les cas n'augmentaient pas aussi rapidement qu'il l'avait été.
It's really pleasing to see immunisation rates increasing so quickly. Cumberland, which has been a particular hardest hit area in western New South Wales, has seen a rapid increase in immunisation rates in the last few weeks, and we're thinking that's probably been one of the reasons we have seen in recent days a flattening of the curve there.
Le grand moufti d'Australie a déclaré que personne ne devrait être refoulé des mosquées au motif qu'il n'était pas vacciné. Le docteur Ibrahim Abu Mohamed fait partie de plusieurs chefs religieux de la Nouvelle-Galles du Sud qui demandent une exemption des passeports vaccinaux. Il a dit sur SBS Arabic 24 que les religieux n'ont pas le pouvoir de demander aux fidèles une preuve de vaccination et de les éloigner des mosquées s'ils ne sont pas vaccinés.
Regarding the places of worship and access of people to them, we cannot sort out people on vaccination ground and tell them, if I'm vaccinated, don't come to pray, because we are not an executive authority. This is the jurisdiction of the executive, and that's why we cannot ask people not to come.
Le ministre de la Santé de Nouvelle-Galles du Sud, Brad Hazard, reste ferme sur la question, affirmant qu'une fois que l'État rouvrira et que les objectifs de vaccination auront été atteints, les fidèles devront présenter une preuve de vaccination. Le Victoria a enregistré 445 nouveaux cas locaux de COVID-19 et 2 autres décès. Quelques 129 des infections sont liées à des cas et à des épidémies connues à ce jour. Et le reste fait l'objet d'une enquête. 85% des cas actifs ont moins de 50 ans. L'État se rapproche de son objectif de première dose de 70% avec près de 67% des habitants du Victoria âgés de 16 ans et plus ayant eu leur première dose de vaccin. Le chef adjoint du Victoria, James Merlino, a annoncé un nouveau programme de soutien à la santé mentale de 22 millions de dollars pour ceux et celles qui souffrent pendant la pandémie.
We're always looking at what more that we can do. So today we're announcing a $22.1 million package of additional mental health support. The big element, $13.3 million, will deliver 20 pop-up community mental health services, 8 in regional Victoria, 12 in metropolitan Melbourne, and we'll have them progressively up and running from the end of this month.
L'ACT prolonge le verrouillage de 4 semaines supplémentaires jusqu'au 15 octobre prochain après avoir enregistré 22 nouveaux cas locaux de COVID-19 ce mardi. Le gouvernement étendra et élargira une gamme de mesures de soutien financier aux entreprises et aux collectivités. L'allègement de l'impôt sur les terres et des taux commerciaux précédemment annoncées seront désormais doublées et prolongées jusqu'au 30 décembre de cette année. Les concessions de services publics seront portées à 1 000 $ au cours de l'exercice en cours de 2021-2022. Et au cours des prochains jours, le gouvernement fera plus d'annonces concernant un financement supplémentaire pour la réponse à la crise sanitaire. Le ministre en chef, Andrew Barr, a déclaré que l'objectif principal était de reprendre les cours en face à face pour les étudiants dans les lycées.
Year 12 students who have had priority access to vaccinations over the last 2 weeks will return to on-campus learning from the start of term 4, that is Tuesday the 5th of October. Year 11 students will return to on-campus learning from week 3, Monday the 18th of October, subject to the health situation not deteriorating between now and then.
Le Queensland a enregistré un nouveau cas de COVID-19 acquis localement ce mardi. Il s'agit d'une étudiante de 15 ans au St. Thomas More College de Sunnybank, où deux autres étudiants et certains membres de leur famille ont également été testés positifs. La chef de la santé du Queensland, Dr. Janet Young, se dit convaincue que l'épidémie est sous contrôle.
Due to the fantastic contact tracing work and the superb work done by that family, that we've managed to get this outbreak controlled so quickly. But we know that we could have another case come into Queensland at any time, so could everyone please continue to do that work and come forward and get tested.
La première du Queensland, Anastasia Palaszczuk, a déclaré que Queensland Health avait administré près de 20 928 doses de vaccins.
We now have 56.68% have got one dose of vaccine and 38.33% are fully vaccinated. And of course, yesterday we started with our young teenagers, our 12 to 15 year old children were eligible to receive the Pfizer. I can confirm that already 9,000 doses have been administered to children aged between 12 and 15.
La frontière dite dure entre le Queensland avec la majeure partie de la Nouvelle-Galles du Sud pourrait rester en place jusqu'à ce que l'État atteigne ses objectifs de couverture vaccinale. Le commissaire de police adjoint du Queensland a déclaré qu'il n'y avait pas de date claire pour laquelle les restrictions aux frontières s'assoupliraient. La frontière avec la Nouvelle-Galles du Sud est fermée depuis près de 2 mois en raison de l'épidémie de COVID-19 en cours dans cet État. Le Queensland accorde des exemptions spéciales aux résidents des communautés frontalières de la Nouvelle-Galles du Sud, aussi loin au sud près de la vallée de Clarence et aussi loin à l'ouest que dans les zones de gouvernement local de Moree Plains. Seuls les résidents de ces régions qui ont reçu une dose de vaccin et qui ne peuvent pas travailler ou aller à l'école doivent faire des achats essentiels ou prendre soin des personnes vulnérables sont autorisés à entrer dans le Queensland. L'Australie-Méridionale intensifie son programme de vaccination de masse car l'État n'enregistre aucun cas de coronavirus localement. La première clinique générale de vaccination sans rendez-vous de l'État a ouvert ses portes dans le centre commercial de Rundle à Adélaïde. Le ministre de la Santé, Stephen Wade, a déclaré que c'était formidable pour les gens qui font des courses dans les magasins, les travailleurs et les étudiants de la ville.
And not only will it be an opportunity for people to get their vaccination, it's a great opportunity to push this program right across the state. We are ramping up the mass vaccination program. We've had a record week last week with 100,000 doses. That's 100,000 doses last week, 100,000 doses the week before. We're now at 40% full vaccination.
Les employés australiens pourront bientôt recevoir un vaccin COVID-19 sur leur lieu de travail. Les fournisseurs pourront désormais demander une accréditation pour administrer le vaccin sur les lieux de travail, un peu comme le vaccin annuel contre la grippe. Pfizer et Moderna seront les principaux vaccins délivrés sur les lieux de travail, mais AstraZeneca sera proposé si nécessaire. Un prochain sommet le 24 septembre à Washington, où les premiers ministres de l'Inde, d'Australie et du Japon ont été invités. Le but est de renforcer les liens dans cette région face à la Chine. Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a rencontré le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi pour des entretiens sur les relations israélo-palestiniennes et les relations bilatérales. Il s'agit du premier voyage officiel d'un chef de gouvernement israélien en Égypte depuis une décennie. Naftali Bennett, qui a pris ses fonctions en juin, a été invité par le président Sissi le mois dernier. Depuis mai, l'Égypte a joué un rôle de premier plan en négociant et en essayant de renforcer un cessez-le-feu dans la bande de Gaza après 10 jours de conflit entre Israël et le Hamas qui contrôle l'enclave. Reportage de Sami Boukhelifa pour RFI.
Un premier ministre israélien reçu en Égypte, cela n'était pas arrivé depuis plus de 10 ans. Janvier 2011, l'Égypte était encore dirigée à l'époque par Hosni Moubarak, le raïs chassé du pouvoir quelques jours plus tard lors des printemps arabes. Une décennie s'est écoulée, un laps de temps durant lequel les relations entre les deux pays ont connu des hauts et des bas. Mais finalement, ces quelques dernières années ont surtout été marquées par une étroite coopération sécuritaire, et notamment la lutte contre les groupes terroristes dans le Sinaï. Mais aussi une coopération énergétique. Depuis 2020, l'État hébreu exporte son gaz vers l'Égypte. Fort de cette collaboration, les Égyptiens qui discutent également avec les responsables de l'autorité palestinienne et ceux du Hamas au pouvoir à Gaza, cherche à relancer les pourparlers de paix israélo-palestinien. L'État hébreu, de son côté, vient de présenter un plan de réhabilitation de Gaza à condition que le Hamas s'engage au calme. Et Israël a besoin du soutien de l'Égypte pour atteindre son objectif.
Tous les vols avec à bord des Afghans évacués vers les États-Unis ont été interrompus pendant 7 jours supplémentaires depuis hier, lundi, à la demande des Centers for Disease Control and Prevention. Cela est dû à des cas de rougeole dans 3 bases américaines. Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a déclaré que les 3 cas de rougeole avaient été diagnostiqués chez les Afghans arrivant à l'aéroport international de Dulles, en Virginie, un à Fort McCoy, dans le Wisconsin, et un à Fort Pickett, en Virginie. M. Kirby a déclaré que toutes les personnes évacuées recevaient tous les vaccins nécessaires, y compris contre la rougeole. Le prix du nickel et de l'aluminium qui flambe depuis la reprise économique, et c'est à cause de fortes demandes et une production insuffisante. Explication de Altine Lazage pour RFI.
Le prix de l'aluminium a atteint ce lundi 3 000 $ la tonne sur le marché des métaux de Londres. C'est son niveau plus haut depuis 2008. Cette envolée a été alimentée par les craintes d'un manque d'approvisionnement en raison du récent coup d'État en Guinée. Le pays d'Afrique est le 2e producteur mondial de bauxite, un minerai qui sert à la fabrication de ce métal. Mais ce qui a poussé les prix vers le haut ces dernières semaines, c'est surtout la réduction de l'offre chinoise. La Chine essaye en effet de maîtriser sa consommation d'électricité et a décidé de baisser la production des fonderies d'aluminium qui sont très énergivores. Le prix du nickel atteint aussi des sommets. Il a culminé vendredi 20 700 $ la tonne, le plus haut depuis mai 2014. L'offre mondiale est d'ailleurs insuffisante pour satisfaire la demande croissante en raison notamment de la transition énergétique. Cette dernière dope les besoins de ce métal utilisé pour la fabrication de certaines batteries électriques.
On passe à la météo pour ce mardi en Australie. À Perth, il fera 22 degrés. Adélaïde, 17 degrés. Melbourne, 15 degrés. Hobart, 14. À Canberra, il fera 15 degrés. Sydney, 18 degrés. Brisbane, 25. Cairns, 31. Darwin, 33. Et à Alice Springs, maximal de 30 degrés. Un rappel des grands titres de ce 14 septembre. La Nouvelle-Galles du Sud enregistre 1127 nouveaux cas locaux de Covid-19 et de décès. Le confinement de l'ACT prolongé de 4 semaines supplémentaires. Et puis les employés australiens pourront bientôt recevoir un vaccin Covid-19 sur leur lieu de travail. Fin du journal et merci de rester avec nous.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.